Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois notre question d'actualité. Et cette fois-ci, cette question d'actualité soumise aux quatre médias. Donc les quatre médias, nous avons comme partenaire Joël Aubert pour Aki.fr, le journal numérique Aquitaine sur le net. Joël, bonsoir.
Tout à fait, bonsoir.
Nous avons aussi Jacques Brunet pour l'Écho des collines, le mensuel 100% rive droite, Jacques.
Bonsoir.
Bonsoir, et nous avons aussi Hugo Hamès pour Le Courrier de Gironde. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Voilà, alors ce soir, dans notre question d'actualité soumise au Calmélia, nous allons revenir sur l'agriculture. Effectivement, dans un contexte de réforme de la PAC, l'agriculture française est en crise avec, au fil des années, le malaise, le mal-vivre et le mécontentement croissant des agriculteurs. Alors c'est dans cette situation que nous tenterons de décrire les enjeux, les perspectives pour l'agriculture de demain entre productivisme et proximité. Et pour ce faire, nous avons invité Jean-Pierre Leroy, qui est paysan près de Saint-André-Cubzac et qui représente la Confédération paysanne de Gironde. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Nous avons aussi invité Bernard Richard, qui est maraîcher et qui fournit deux AMAP, on reviendra évidemment sur ce que veut dire AMAP, deux AMAP de la rive droite à Saint-Loubès et Tresse. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Et nous avons aussi invité, pour clôturer ce tour de table, Philippe Nompex, qui est directeur du mouvement des éleveurs girondins. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Voilà, alors avant de se lancer dans cette émission, quelques rappels sur l'agriculture à l'échelle de l'Europe ou l'agriculture nationale ou encore en Aquitaine. Alors c'est vrai que l'agriculture au niveau européen, on est en pleine actualité, vous avez dû en entendre parler, donc effectivement, concernant la PAC, la politique agricole commune, qui fête d'ailleurs cette année ses 50 ans. Alors vous le savez, cette PAC a d'abord pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire en Europe. C'est l'une des principales compétences de l'Union et elle a façonné le développement de l'agriculture européenne. La réforme de la PAC est sur les rails, entérinée fin septembre par à la fois le Parlement européen, le Conseil des ministres de l'Union européenne et la Commission européenne. Et à partir de 2014, la politique agricole commune serait plus respectueuse de l'environnement et les aides devraient être plus équitablement réparties. Mais la crise budgétaire et politique de l'Union européenne, avec en plus la fronde en France de certaines régions comme la Bretagne et ses bonnets rouges, a bouleversé ce chantier de réforme. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont dans l'expectative. La PAC absorbe en effet une part conséquente du budget de l'Union, environ 40%. Après le débat sur le budget, se pose la question évidemment de la redistribution de ces aides ou contributions entre les éleveurs, les producteurs de grandes cultures ou tous les autres agriculteurs. Alors, quelques rappels concernant l'agriculture en France. N'oublions pas que le poids justement des agriculteurs dans la vie économique, c'est-à-dire la part du secteur agricole et dans la richesse nationale française, dans le produit intérieur brut, a diminué de moitié en l'espace d'une trentaine d'années. Cette chute s'explique essentiellement par la baisse des prix des produits agricoles depuis 25 ans. Le nombre d'exploitations agricoles et le nombre de salariés dans l'agriculture a été aussi divisé par près de deux en une vingtaine d'années cette fois-ci. Cependant, la France reste en Europe la première puissance agricole, même si sa part s'est réduite ces 10 dernières années. Elle devance toujours l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors l'agriculture en région Aquitaine, il faut savoir qu'ici en Aquitaine, l'agriculture est une filière importante pour l'économie régionale. En effet, en 2010, l'Aquitaine comptait 43 000 exploitations agricoles, ce qui la situe au second rang des régions françaises après le Midi-Pyrénées. Avec plus de 73 000 équivalents temps plein travaillant dans les exploitations, l'Aquitaine se place au premier rang des régions françaises pour l'emploi agricole. Alors, la valeur de la production régionale s'élève à 4,7 milliards d'euros en 2010. Le secteur des vins de qualité fournit désormais 31% de la production agricole régionale, mais ce secteur est en baisse régulière. Les autres productions végétales significatives sont le maïs, les fruits et les légumes. Les productions animales occupent, elles, une place plus modeste et surtout représentées par la filière bovine, veau et gros bovins, 10%, et la filière laitière, 6%. Néanmoins, les disparités départementales sont fortes et la vigne est omniprésente en Gironde. Le maïs et l'aviculture prédominent dans les Landes. En Lot-et-Garonne, on trouve surtout les fruits et les légumes, les céréales et oléagineux. Alors que 70% de la production des Pyrénées-Atlantiques provient, elle, des filières animales. La Dordogne apparaît, quant à elle, plus polyvalente avec une dominante de la filière bovine qui dégage la moitié de la valeur de la production animale régionale. Le Conseil régional Aquitaine, d'ailleurs, soutient l'agriculture de qualité avec notamment l'établissement et le vote en assemblée plénière en mars 2011 d'un plan régional en faveur des circuits courts et de proximité. Alors, elle permet aujourd'hui à la région d'afficher une volonté politique forte afin de pouvoir d'organiser et de structurer les démarches de circuits courts et de proximité dans un double objectif de développement durable et de cohésion territoriale. Alors, ce plan d'action régional s'articule autour des axes suivants: soutien à la production, appui à la transformation, promotion et commercialisation, et enfin accompagnement et structuration. Mais voilà, ce n'est pas la seule à évidemment soutenir l'agriculture. La CUB aussi, la communauté urbaine de Bordeaux, soutient également l'agriculture de proximité. Effectivement, pour la dynamique agricole sur son territoire, la communauté urbaine intervient sur trois volets: la maîtrise foncière en partenariat avec la SAFER et Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, mais aussi l'aide matérielle à l'installation de nouveaux agriculteurs, ainsi que le soutien aux circuits courts. Alors, sans oublier les chambres d'agriculture, qui elles aussi s'engagent activement dans le développement des modes de commercialisation de proximité et des circuits courts, et à noter comme une initiative locale aussi significative, l'apparition en 2011 d'un guide intitulé « Agriculture de proximité, circuits courts, les territoires s'impliquent ». Ce guide a été réalisé par PQA, Pays Quartier d'Aquitaine, et organisé dans le cadre de l'animation du réseau rural Aquitain. Voilà, donc avec nos trois invités et nos collègues, nous allons essayer de voir si, dans ce monde agricole en crise et en profonde mutation, les circuits courts ou de proximité représentent des opportunités intéressantes de diversification, de débouchés pour de nombreuses exploitations agricoles. S'ils répondent également à une demande croissante des consommateurs à la recherche de produits saisonniers et de proximité avec des garanties de qualité et de traçabilité. Ensuite, si les circuits courts sont aussi facteurs de lien social, de cohésion territoriale, et s'ils représentent un enjeu important pour l'agriculture périurbaine, en participant notamment au maintien de ceintures vertes autour des agglomérations. Enfin, de par leur mode de production et de distribution, si les exploitations en circuit court contribuent à une agriculture durable, économe en énergie, limitant les gaz à effet de serre et donc préservant la biodiversité. Alors effectivement, ça paraît vaste comme programme, donc on va essayer de commencer tout de suite. Alors avec vos peut-être vos premières impressions, à la fois sur faire un point de situation aujourd'hui sur l'agriculture, donc on va dire plus ici locale, un point de situation à la fois sur la crise effectivement qui doit vous impacter, et peut-être aussi sur les solutions que vous avez mis en œuvre ici ou là pour continuer à vivre sur vos exploitations et continuer finalement à faire que l'agriculture en France reste leader et peut-être en Europe et dans le monde encore pour demain. Donc tout de suite on peut peut-être partir sur un point de vue peut-être plus global et revenir sur à la fois le maraîchage et l'élevage par la suite. Peut-être un premier mot avec vous, Jean-Pierre Leroy, sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir. Effectivement, on parlait de l'agriculture de proximité, mais d'abord un point d'analyse à ce moment-là.
Sur cet exposé, on peut émettre quelques réflexions. On ne peut pas dire que le Parlement européen a participé beaucoup à la rédaction, à la mise en place de la réforme de la PAC. Hein. Une fois de plus, la Commission européenne a été omnipotente dans les décisions qui ont été prises par la PAC sur les orientations de la politique agricole commune. Et elle a... Tout ce qui était au début de ce projet de réforme pour 2014-2015, proposé par Dacian Ciolos, le responsable de l'agriculture à la Commission, ont été petit à petit dilués ce projet s'est délité. Et on peut dire que les lobbies agroalimentaires de la politique européenne ont recadré cette réforme de la PAC dans un sens très conservateur d'une agriculture industrielle, productiviste, et le volet vert, ce qu'il en reste, c'est un peu epsilon, quoi.
Oui, donc si on vous écoute bien, le volet vert est un peu passé à la trappe en temps de crise budgétaire, économique, financière.
Sous les pressions de lobbies industriels et des lobbies productivistes, on peut dire que cette PAC qui partait, portée par un commissaire européen, Dacian Ciolos, un commissaire roumain qui avait vraiment une idée de réforme assez fondamental de cette PAC
pour en faire quelque chose de plus respectueux de l'environnement.
Voilà, hein. Exactement. Et il a dû mettre un genou à terre et reculer.
Donc sous les coups de pression des lobbies industriels, agroalimentaires en particulier. Donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer en tant que représentant de la Confédération paysanne.
C'est malheureusement le soutien à la petite agriculture, à l'agriculture de proximité, à l'agriculture de territoire, à cette agriculture qui apporte une dynamique fondamentale sur les territoires ruraux. Si on sort cette agriculture-là, cette dynamique rurale disparaît en grande partie. Eh bien, cette réforme va passer outre, quoi.
Alors, une fois qu'on a dit ça, Jean-Pierre Leroy, pour la Confédération syndicale paysanne, voilà, quelle aurait été, vous, votre orientation, alors, en fait? Qu'est-ce que vous auriez préféré, alors, finalement?
Il fallait orienter cette politique agricole commune, ces masses financières qui sont distribuées, les orienter vers une dynamique d'emploi, une dynamique de présence sur les territoires, maintenir des petits paysans qui sont des gages de production de qualité, de diversité et de dynamique territoriale. Malheureusement, on est passé encore une fois à côté du sujet.
Alors, je ne sais pas si c'est le sentiment général, mais je vois que déjà Jacques Brunet veut intervenir, mais on va vous passer la parole très rapidement, Philippe Nompex et Bernard Richard.
Oui, allez-y. Simplement, bon, j'ai mon information est périmée sûrement, mais j'ai sous les yeux les propositions de la commission octobre 2011, et je vois paragraphe 5 développer les circuits courts entre producteurs et consommateurs sans trop d'intermédiaires. Bon, donc c'est du baratin, ou alors il y a eu pression, c'est ça, pression.
Ils sont revenus très en arrière.
D'accord. Alors on le sait, de toute façon les budgets européens sont à la baisse, y compris le budget de la PAC. Aujourd'hui il représente 40% du budget, mais il y a encore quelques années c'était près de 60%, donc on voit bien qu'il y a eu une baisse significative ces dernières années. Et puis après il y a la redistribution de ce budget qui est déjà à la baisse, effectivement. Donc comment il va se redistribuer entre éleveurs, grands céréaliers? Mais peut-être avant d'aller plus loin avec vous, Jean-Pierre, on va passer la parole à nos invités autour de la table. Alors peut-être Bernard Richard, on le rappelle, vous êtes maraîcher et vous fournissez deux AMAP de la rive droite, on l'a dit, à Saint-Loup-Bès-Étresse. Alors un petit mot sur l'analyse de cette situation de crise. On a envie de dire ces crises à répétition dans le monde de l'agriculture, hein. On le voit, et les agriculteurs vivent de plus en plus mal ces dernières années en termes de salaire, mais aussi en termes de bien-être. Et tout simplement, on sait qu'il y a un nombre de suicides importants dans cette profession. Alors vous, que pensez-vous de cette situation, de cette réforme de la PAC? Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et depuis combien de temps pour réussir à continuer à vivre de votre exploitation? Et quel débouché finalement vous avez trouvé? Expliquez-nous.
D'accord. Alors, si vous voulez, il faut, bon, si on peut revenir un petit peu au niveau de ce qui serait intéressant au niveau de la PAC, hein, entre autres, ça aurait été par exemple, ou de la France, puisque c'est la France qui décide chez nous pour attribuer les subventions, à qui elle va les attribuer, ça aurait été par exemple un soutien aux paysans, à l'agriculteur, avec les personnes qu'il a autour. Alors que là, c'est un soutien à la surface. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas soutenir de cette façon-là les paysans comme nous qui sommes en toute petite surface.
Alors Bernard, bon, quand vous dites un soutien à la surface, on entend nous donc soutien aux grandes exploitations, on pense aux céréaliers évidemment, grands céréaliers, et du coup soutien toujours à une production, enfin un productivisme en matière agricole, quoi, plutôt qu'à des circuits de proximité, c'est ça que vous dites
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le soutien, il est financé à la surface, c'est-à-dire vous avez tant à l'hectare. Si vous avez 200 hectares, 300 hectares.
Alors effectivement, voilà, quand on est petit maraîcher ici, alors, sur la rive droite, on n'a pas 200 ou 300 hectares, hein, de culture, on est d'accord. Hein.
Voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas, dans ce cas-là, vous ne demandez pas d'aide, parce que faire un dossier pour toucher 100 euros, ça ne vaudrait pas le coup. Donc il n'y a pas besoin. Voilà. Alors après, moi je suis personnellement, j'étais au début vigneron. Hein. La crise nous a bien touchés. J'ai démarré dans des conditions difficiles, donc bon, ça ne s'est pas amélioré. Et là, depuis, on va dire, 6 ans maintenant, on a décidé de faire la production des légumes. Faut dire que j'ai une fille qui s'est installé à côté de moi.
Alors c'est une exploitation familiale, Bernard?
C'est familial, tout à fait. Oui, voilà,
une petite... compte combien de personnes? Alors, en fait
Là, actuellement, on est y a mon épouse, moi-même et ma fille qui se fait remplacer puisqu'elle est en ce moment enceinte.
Très bien.
Voilà. Donc on arrive que en réalité on travaille quand même encore quelques surfaces de vignes, mais si on n'avait pas eu le maraîchage, on aurait fermé la boutique.
Voilà. Alors justement, le maraîchage, vous avez entrepris cette nouvelle production, on va dire, de légumes. Et mais sous quel angle justement? Comment vous avez imaginé et comment ça se traduit aujourd'hui?
Voilà. Alors parce qu'il y a plusieurs formules. On aurait pu trouver. Moi, j'ai démarré les légumes il y a plus de 30 ans et je faisais à l'époque des marchés. Donc j'avais arrêté. Et là, on a décidé de reprendre. Et il s'est trouvé qu'on a été contacté par un groupe la première fois. Sur Tresse, et qui s'était constitué en AMAP et qui est venu nous demander si on pouvait lui produire.
Donc vous produisez, on le rappelle, dans quelle commune alors vous êtes?
Alors je produis pour une AMAP qui est à Tresse et pour une AMAP informelle sur Saint-Loubès.
D'accord, mais vous produisez sur quelle commune vous?
Alors je suis sur Nérigent.
Nérigent, d'accord.
C'est à 20 kilomètres à peu près des deux bourgs.
Et du coup, là, vous avez mis ce système de distribution avec l'aide des AMAP. À quel moment alors? C'est récent? Alors,
on a commencé en 2009.
2009.
2009, au début, là, voilà. La première et la deuxième en 2010.
Voilà. Alors, pour vous, est-ce que ça, finalement, c'est une solution, ces circuits courts?
Alors, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, vous avez un contact avec les consommateurs. Ça, c'est, et vous avez un retour. Bon, ça c'est le primordial, ce contact. Et puis c'est pas parfait parce que on n'est pas des professionnels de la communication. Alors des fois, il peut y avoir des malentendus ou des non-dits. Voilà. Et puis de l'autre côté, pour nous, c'est assez quand même exigeant. On ne fait pas quelques productions en légumes. On fait en gros dans l'année autour de 60 légumes différents.
Alors sur une surface
Sur une surface de 1 hectare et demi. D'accord. Voilà. Avec quelques tunnels qui permettent de travailler l'hiver, parce que dans nos terres, comme c'est des terres plutôt argileuses, donc c'est difficile. Voilà.
Et on parle d'agriculture comment? Raisonner
Alors chez nous, moi je pratique l'agriculture biologique depuis 40 ans. Alors
l'agriculture biologique, donc
voilà,
c'est affiché.
Depuis 40 ans. Et la MAP, en principe, doit aller vers une agriculture biologique si elle n'est pas biologique. Voilà.
D'accord.
C'est
un peu la philosophie de la MAP.
De la MAP.
Donc, alors, on le rappelle, la MAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Voilà, hein, voilà. Tout à fait.
Donc, aujourd'hui, est-ce que ce système, finalement, de débouchés pour vos cultures de légumes, de maraîchage, vous satisfont, finalement, et permettent à autres personnes qui, vous avez dit, qui vivaient grâce à cette exploitation, finalement, de vivre, tout simplement?
Voilà, tout à fait, oui. Ça nous permet de sortir un petit revenu que, jusqu'à maintenant, on n'arrivait plus à le sortir pour la vigne. Quand on avait besoin de revenus, mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un court terme à la banque, et conclusion, on s'enfonçait de plus en plus.
Non, mais alors, si on comprend bien, bon, alors, vous ne bénéficiez pas des aides de la PAC, hein, ça on l'a bien compris, qui vont plutôt sur les grandes surfaces. Bon, vous, avec un hectare et demi, vous n'avez rien. Et pour continuer à survivre, vous êtes passé la viticulture qui était, vous avez dit, vous avez repris une exploitation, familiale, peut-être pas dans la meilleure période, et vous êtes passé donc à la culture de maraîchage. Et donc, aujourd'hui, grâce au circuit court, vous arrivez à faire vivre trois personnes sur l'exploitation, c'est bien ça?
C'est ça.
Et pour vous, c'est l'avenir?
Pour nous, oui, on choisit. Alors après, vous avez, on peut pas multiplier, hein, par exemple, comme chez nous, on peut pas multiplier à l'infini le nombre de paniers, puisque c'est une forme de panier que c'est distribué, parce que il y a plusieurs conditions. Il y a les personnes qui sont sur place, et puis ensuite il y a l'eau. Il faut pouvoir arroser suffisamment. Soit goutte à goutte, pour bien raisonner, hein, soit goutte à goutte, soit en aspersion à certaines productions. Et donc, là, par exemple, nous, l'eau nous limite automatiquement à une certaine surface.
Bon, très bien. On essaiera de revenir sur les avantages et les inconvénients de ce choix. On va passer la parole, je regarde mes collègues, à Philippe Nompex et on reviendra. Je lui pose juste cette question, je vous laisse la parole juste après. Donc Philippe, on le rappelle, Philippe Nompex, vous êtes directeur du groupement des éleveurs girondins. Donc l'élevage, ça compte aussi dans l'agriculture et on entend souvent parler de crise aussi, il y a élevage. Alors ça va être le lait, ça va être les porcs, ça va être les poulets ou encore autres. Alors, Monsieur Nompex, même question, finalement, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette crise? On l'a vu avec ces mobilisations ces dernières semaines, notamment dans la région de Bretagne. Effectivement, dans ce contexte de réforme de la PAC, vous, comment les éleveurs finalement appréhendent cette réforme et cette nouvelle crise? Et quelles solutions vous avez trouvées, vous aussi, en tant que filière, d'élevage, pour votre distribution? Est-ce que les circuits courts font partie des alternatives possibles pour vous? Est-ce que pour vous, c'est aussi un choix qui pourrait aussi... rendre plus confiant dans l'avenir?
Oui, alors au niveau général, disons que déjà je présente un peu la démarche que l'on a, c'est-à-dire je suis directeur de la coopérative d'élevage de la Gironde qui représente à peu près 150 producteurs sur le département, 120 producteurs de bovins et 30 producteurs d'ovins. Donc on participe activement à l'entretien de l'espace à côté des surfaces qui sont plantées en vigne dans notre département. Et la particularité de nos adhérents, c'est qu'à 80%, ils sont aussi viticulteurs. Donc l'élevage est une complémentarité. Voilà. Ouais. Alors par rapport à la réforme de la PAC, nous on a beaucoup d'espoir parce que effectivement on parlait d'une aide à la surface tout à l'heure et pour nous c'est fondamentalement différent du maraîchage où on a obligatoirement des plus grandes surfaces puisqu'aujourd'hui pour vivre les producteurs, les éleveurs sont obligés d'exploiter de plus en plus grand. Ils sont aussi de moins en moins nombreux, donc on arrive à aujourd'hui maintenir le potentiel de production, mais l'avenir est quand même assez sombre parce que se pose aujourd'hui aussi le renouvellement des générations. Et nous, quand on a fait une analyse récemment sur l'âge de moyenne de nos adhérents, eh bien, ils ont 5 ans de plus qu'il y a 5 ans. Voilà. Donc ça veut dire que on est sur une moyenne d'âge aujourd'hui de gens qui ont 47 ans, ils en avaient 42 il y a 5 ans.
Et la relève familiale ne se fait plus systématiquement.
La relève familiale ne se fait plus pour tout un tas de raisons et aussi, je dirais, pour la problématique de transmission du patrimoine, parce que on est sur des exploitations d'élevage où aujourd'hui il faut 50, 80, 100 vaches pour arriver à faire vivre un ménage. Et donc après, avec tout ce qui va autour en termes de capitaux, d'exploitation, de bâtiments, de matériel, etc., de foncier, qui font que quand il y a un problème de transmission, alors si c'est un jeune qui prend la suite de son père, qui est fils unique, à la limite, il n'y a pas trop de problème. Le problème, déjà, il se pose quand ils sont deux ou trois de famille et qu'il faut ensuite partager. Et la problématique vient du rapport de l'investissement aux résultats de l'élevage aujourd'hui qui ne permettent pas aux investisseurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, de l'investir dans ce domaine-là.
Alors d'autant plus qu'on l'a vu, ces 25 dernières années, il y a eu le prix finalement des productions agricoles qui a baissé régulièrement chaque année. C'est quand même une donnée constante, ça, effectivement, que ça soit aussi dans l'élevage, que ça soit le prix des œufs, du lait, de la viande. Donc effectivement, pour pouvoir vivre sur l'exploitation avec des prix qui sont sans arrêt à la baisse, ça devient d'autant plus difficile aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait. Notre problématique vient du prix aussi de la viande qui n'a pas évolué pendant des années. Alors même si on a un léger mieux en ce moment, pendant des années on a un prix qui est resté bloqué au niveau d'un prix d'il y a 10 ans, et avec l'incidence du coût de l'augmentation du coût des matières premières. Donc pour produire de la viande il faut de l'espace, il faut des surfaces en prairie, mais ici il faut, pour finir les animaux, complémenter en céréales notamment. Et le problème, c'est que les céréales ont doublé. Il y a quelques années on achetait le maïs, parce que pour ceux qui produisent pas on achète le maïs.
Donc on voit bien que la marge est réduite.
Oui, on a acheté 120 euros la tonne et là, dernièrement, on le payait 240 euros la tonne.
Donc c'est le double, presque.
C'est le double. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, c'est en train de fléchir et ça redonne de l'espoir. Mais c'est vrai que jusqu'à ce jour, jusqu'à il y a quelques mois, on était dans cette situation où les gens se décourageaient parce que le prix des intrants augmentait et le prix de la viande stagnait.
Voilà. D'accord. Donc, et là, vous avez des compensations, des aides en tant qu'éleveur, justement, pour compenser ces différentiels sur les matières premières ou pas?
Non, non,
non, pas du tout. Hein. Donc j'en reviens à la PAC et l'espoir que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux surfaces que l'on exploite, effectivement, c'est que devrait y avoir un lissage des aides à venir, parce que les éleveurs étaient ceux qui avaient les plus petits DPU, les plus petits droits à paiement unique basés sur des références historiques, où on est plus proche aujourd'hui de 100 euros, 80 à 100 euros, que de 300 ou 350 euros, comme les céréaliers, voire plus pour les céréaliers. Et la réforme de la PAC prévoirait sur plusieurs années, sur les années à venir,
un rééquilibrage
qui permettrait de monter à terme un DPU moyen que l'on estime aujourd'hui à 260 euros. Voilà. Bon, on n'en est pas encore là, donc je dis que c'est juste
question d'espoir. Et aujourd'hui, en termes de solutions, finalement, les circuits courts, est-ce que ça parle aux éleveurs et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a justement des filières qui sont organisées pour pouvoir distribuer en circuit court, circuit de proximité? Bon, c'est un peu l'alternative dont on veut parler aussi aujourd'hui. Est-ce que, ça trouve un écho dans votre profession?
Nous, ça nous a parlé. Parce que je veux dire, on a la philosophie, la politique de travail qu'on a mis en place, on l'a mis en place, ça remonte aux années 96, première crise de la vache folle, où les éleveurs girondins ont dit on va se prendre en charge nous-mêmes, parce qu'on est, vous savez, la Gironde, c'est pas un département d'élevage. Hein. Donc on avait du mal, nous, même en production organisée, à peser sur les marchés. On se heurtait toujours à des filières régionales beaucoup plus importantes que la nôtre.
Et puis de l'autre côté, il y a les consommateurs qui demandaient plus de traçabilité. On les
demandait
comprend,
la traçabilité
pour des risques sanitaires.
Et nous, on était présents sur un département de consommation. On envoyait, il y a 15 ans de ça, 20 ans de ça, on envoyait nos bêtes être abattues sur d'autres départements et souvent être renvoyées en carcasse sur la région bordelaise. Donc on a dit, on a un petit potentiel de production, on n'a pas de volume et c'est peut-être le moyen d'exister autrement. Et vraiment, le déclic, ça a été la première crise de la vache folle. On n'arrivait plus à vendre nos broutards à l'exportation. Donc on s'est dit, il faut se prendre en charge, il faut profiter de ce marché qu'on a à notre porte, se mettre déjà engraissé, parce que pendant des années, on n'engraissait pas nos animaux, on les envoyait maigres à l'extérieur, parce qu'on était des viticulteurs, c'était une production complémentaire.
Alors qu'on connaît une crise des foies aussi.
On a envoyé ça chez les Italiens.
Italiens, effectivement, hein, ou dans d'autres régions de France, et comme je disais, ça revenait chez nous sous forme de viande abattue, nous faire concurrence, quoi.
Alors qu'on connaît une crise des foies peut être productrice d'innovation aussi, d'invention aussi.
Pour nous, ça a été vraiment le déclic, la prise en charge, et de dire on va aller plus loin, donc on a plutôt que d'exister sur des labels différents, qui étaient des labels ratio, bœuf limousin, bœuf blonde aquitaine, où on ne pesait pas, on n'existait pas, nous on a de tout sur notre territoire, on a de la limousine, on a de la blonde, on a de la basadaise, on a dit on va identifier notre viande et on va faire une signature, on va la signer, et on a fait notre bœuf sous signature Gironde, qu'on a déposé en 96, et qui a été reconnu, agréé, marque certifiée dans les années 2000, et à partir de ça on a mis en place une démarche où on communique localement et qu'elle soit blonde, qu'elle soit basadaise ou qu'elle soit limousine, elle bénéficie aujourd'hui à l'étal de cette marque Gironde, de cette signature Gironde.
Joël Aubert.
Juste un mot à propos du dernier sommet de l'élevage qui a eu
à Rennes, hein.
En Auvergne.
Où
il a été question, le président de la République est venu, semble-t-il, les éleveurs ont été attentifs à ce qui a été dit. Pour remoduler les aides en fonction des surfaces d'exploitation et d'une certaine manière survaloriser un peu les plus petites, enfin ça reste relatif, par rapport aux céréaliers qui ont râlé très fort.
Est-ce que
vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le bon sens ou en tout cas que c'est une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose parce que l'élevage était en difficulté?
Oui, mais bon, effectivement, ça va dans le bon sens, puisque je crois, en fait, tel que c'est prévu, c'est les 50 premiers hectares bénéficier d'aides revalorisées. Donc ça va effectivement dans le bon sens pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Et c'est pas neutre dans nos régions où les exploitations sont relativement petites,
oui.
On le sait. Hein.
Voilà. Oui, mais après, voilà.
On n'est pas en bosse, effectivement.
Oui, tout à fait. Sauf que, si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez moins de 50 hectares en élevage, ça se aura une production complémentaire de la vigne, etc. Ouais. Mais ça peut pas être une exploitation professionnelle, entre guillemets, qui ne vive que de ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut de tout, et il faut, parce que nous, enfin, au niveau de nos adhérents, une grosse partie de nos adhérents ont une cinquantaine d'hectares. On n'a pas que des gros éleveurs.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que quand même de donner la dynamique à ces petites exploitations, et peut-être ça leur permettra d'exister, et de même d'étendre leur surface, parce qu'il y aura dans le temps, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des surfaces qui vont se libérer et qui peuvent être reprises par le biais de fermage par ces exploitations-là et qui peuvent grandir et professionnaliser leur démarche.
Alors moi, si je vous entends bien, je parle sous le contrôle des collègues, mais voilà, on a l'impression que vous avez quand même opté, bon, pour des raisons diverses, mais vous avez opté pour un choix d'une agriculture finalement de proximité, d'une filière courte, et finalement donc d'une agriculture, on va dire durable entre guillemets. Et aujourd'hui, comment vous percevez le soutien de collectivités territoriales? On a parlé du conseil régional qui a évidemment voté ce plan de soutien à l'agriculture de proximité, ou encore du soutien de la communauté urbaine de Bordeaux, voilà, qui aide à l'installation, mais qui aussi aide aux filières de proximité et aussi la réservation du foncier. On le sait, c'est important pour l'installation des jeunes agriculteurs. Alors aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à articuler vous vos actions avec ces aides, ces soutiens là, et comment vous les percevez et comment vous arrivez finalement à les mettre en œuvre dans vos propres solutions, quoi?
C'est-à-dire que, bon, pour être complet sur notre démarche à nous, quand j'ai dit on s'est pris en charge en 96 en créant notre marque, on a été plus loin, puisque dans les années 2000, on s'est mis, on vendait nos animaux à des grossistes qui ensuite redistribuaient. Et on n'arrivait pas, malgré la marque, à peser sur le marché. Et dans les années 2000, on s'est dit, on va se prendre en charge et on va se transformer en abatteur. Donc on est venu au fait d'abattre nous-mêmes nos animaux pour aller les distribuer ensuite auprès de grossistes. Auprès de boucher détaillant, d'avoir le rôle de grossiste en viande.
Donc là, c'est la politique, on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Voilà. Donc,
on est vraiment sur la proximité. On y reste.
Et on a été plus loin, parce que quelque part après, bon, c'est vrai que pas mal de bouchers détaillants sur la région de Bordeaux ont commencé à nous faire confiance, mais on a eu du mal à percer. C'est vrai qu'on s'adressait souvent à nous quand il y avait une petite crise sanitaire, quand on avait un problème de distribution, de proximité, etc. On venait voir les éleveurs. Mais ensuite, c'était pas dès que la crise s'éloignait, on s'éloignait des éleveurs parce qu'on pouvait distribuer des viandes de bon marché qui venaient d'ailleurs. Donc à partir de là, ce qu'on faisait était bien. Les gens nous ont dit, c'est bien ce que vous faites, mais le problème, votre viande, on la trouve peu. Et là, on s'est dit, allez, faut peut-être aller plus loin, quoi. Et là, on a pris notre destin. Alors là, complètement en charge, parce qu'en 2002, on a ouvert notre première boucherie. La première boucherie du groupe 1 éleveurs dans l'entre-deux-mers.
Donc là, c'est de l'abattoir à la boucherie.
Filière
garantie.
On est venu abatteur, distributeur de gros, et en 2002, distributeur de détail. Alors, une démarche complémentaire de la démarche de nos artisans bouchers, de nos partenaires. On a des partenaires, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a assisté à une levée de boucliers des gens de la boucherie, du syndicat de la boucherie, qui ont dit, qu'est-ce que c'est que ces paysans qui veulent faire notre boulot, quoi.
Des concurrents paysans. Voilà.
Alors que bon, on leur a bien prouvé que nous, on ne voulait pas faire leur boulot, que nous, on n'était pas des professionnels de la boucherie. On a embauché des professionnels de la boucherie qui sont salariés chez nous, mais qui sont des vrais professionnels, qui siègent aujourd'hui au niveau du syndicat de la Chambre des métiers et du syndicat de la boucherie, puisqu'on a un élu au bureau du syndicat, et on participe activement à la formation des apprentis, notamment. Voilà. Donc, on a associé ce métier de distribution de détail au métier de la production.
Voilà, donc une filière totalement sécurisée, courte, et qui permet à la fois aux agriculteurs, aux éleveurs de vivre, et aux consommateurs d'avoir un produit de qualité qui peut suivre avec une traçabilité connue, identifiable. Jacques Brunet pour l'Écho des Collines.
Oui, un contre-exemple qui vous donne entièrement raison et qui est en plein dans l'actualité. J'ai saisi ça au vol ce matin, là, sur notre radio. L'exemple de la Bretagne, hein, où chaque année, 750 000 porcs partaient en Allemagne en camion pour se faire abattre en Allemagne, où il n'y a pas de SMIC, bien sûr. Sûr,
oui, c'est plutôt 4 euros de l'heure, je crois.
Aux Bulgares, hein, voilà. Et donc, c'était 20% d'activité en plus pour les abattoirs, et les abattoirs qui ont dû fermer, hein, 400 salariés licenciés. Alors bon, c'était totalement aberrant, hein, comme pratique, et ça vous donne raison.
Oui, alors effectivement, merci Jacques pour cet exemple qui illustre totalement votre propos, et j'ai envie de rajouter effectivement, chaque fois qu'on sécurise une filière comme la filière de l'élevage en Gironde ou en Aquitaine, filière de proximité, on garantit des emplois non délocalisables aussi sur le territoire.
Oui, ben tout à fait. Nous, et puis notre démarche le prouve, hein, puisque après l'ouverture de la première boucherie en 2002, il y en a une autre en 2003. La première était entre deux mers, la deuxième dans le Médoc, la troisième en sud Gironde, et depuis récemment, depuis début 2012, la dernière boucherie dans le centre-ville de Mérignac. On a créé des emplois. Et quand je dis, parce que ce sont des boucheries, ce sont des grosses boucheries. Aujourd'hui, on a dans ces quatre boucheries une trentaine de bouchers. qui travaillent pour le compte du groupement, qui sont des employés, mais des bouchers professionnels.
Donc finalement, il a fallu recruter.
Il a fallu recruter. Et puis, je vais vous dire, c'est quand même dans les années 2000, quand on s'est lancé dans l'abattage, on avait le GEG, le groupement des éleveurs girondins, c'était 6 emplois. Au mois d'octobre, on a établi 46 bulletins de salaire.
Bon, voilà.
Voilà. Donc, avec, bien sûr, tout le monde, les bouchers, les services administratifs, les techniciens, etc. Dire, hein. Voilà. Donc, on a créé de la valeur ajoutée. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que c'est un changement complet de fonctionnement.
Oui, oui, tout à fait, Philippe. Mais, bon, on voit que c'est possible. Il y a une alternative à cette crise agricole, et notamment en passant par l'agriculture de proximité, Philippe. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense que la réussite de notre projet, de notre démarche, elle réside dans le fait que c'est une démarche collective. Parce que il faut s'organiser, je dirais pas pour être puissant, mais pour s'organiser, il faut que ce soit collectif. Parce que un producteur, c'est différent, complètement différent des légumes. Hein. Un producteur chez nous qui va produire même 50 vaches, qui est énorme de boucherie dans l'année, il aura du mal à approvisionner un point de vente qui distribue une vache par semaine, parce qu'il va produire 3-4 vaches, 5 vaches en
tout
même
l'intérêt
temps.
L'intérêt du collectif, du groupe.
Alors que là, le but, c'est de produire 50 vaches toutes les une par semaine, toute l'année, quoi, voilà. Donc c'est la difficulté, et c'est la limite des démarches individuelles en viande bovine. Bon, il y en a qui essayent, bon, et qui travaillent bien, hein, c'est pas... Mais je dirais que la réussite de notre démarche, elle vient du fait que c'est une organisation collective qui nous permet d'exister et de fournir toutes les semaines aux consommateurs un produit garanti d'origine locale.
Alors, peut-être Jean-Pierre Leroy, hein, pour la Confédération Paysanne de Gironde, on le voit, que ce soit avec une démarche individuelle, avec Philippe Nampex pour le maraîchage, avec ses filières AMAP sur la rive droite Saint-Laubès-Outresse, ou que ce soit avec le groupement des éleveurs girondins, avec Philippe Nampex, qui a une démarche beaucoup plus collective. Voilà, des solutions sont possibles à la crise d'agriculture. On le voit, ça passe par des circuits courts, des filières sécurisées, une garantie d'emploi aussi... ou maintien, voire de création, on l'a vu à l'instant, d'emplois sur le territoire. Alors j'ai envie de vous poser cette question, Jean-Pierre Leroy. Alors, filière de proximité, agriculture de proximité, c'est une alternative, mais bon, finalement, la PAC, on se rappelle, c'était pour finalement l'autosuffisance alimentaire en Europe. Est-ce que ça peut suffire, ça, comme débouché pour l'agriculture? Enfin, comme système aussi de fonctionnement, est-ce qu'on peut passer que par une agriculture de proximité, sans oublier le productivisme, qui a fait que la France a été maintenue au deuxième rang mondial et au premier rang européen jusqu'à aujourd'hui?
C'est vrai que l'agriculture de proximité est naissante. Hein, ça fait, disons qu'une vingtaine d'années que ça se développe de manière importante. Mais on est encore sur, au niveau global des marchés, de la production, on est encore sur des petits chiffres, des petits pourcentages. Et c'est vrai qu'on ne pourra jamais produire une agriculture de proximité autour des grandes villes uniquement par l'agriculture de proximité.
Voilà.
Mais on peut, avec un peu de volonté politique, et le Conseil régional s'est engagé, a mis un pied dans cette démarche-là, le Conseil général aussi, petit à petit, on arrive à convaincre les élus qu'il faut faire des efforts dans ce sens, et que c'est bénéfique pour à la fois les consommateurs locaux et aussi pour une dynamique d'emploi sur le territoire, et une dynamique, comme je le disais tout à l'heure, une dynamique territoriale.
Et même l'entretien du paysage, on l'a évoqué. Hein.
Entre autres. La cube s'alimente à peu près un jour et demi, par cette agriculture de productivité.
De proximité.
De proximité.
D'accord.
On multiplierait par 10, ça ferait jamais que 15 jours, quoi. Hein. Mais ça veut dire qu'on a un potentiel de production locale considérable.
Qui pourrait être reproductible à chaque échelle d'agglomération, comme Joël le disait, bientôt un million d'habitants.
Et on se heurte à une inertie. Mais malgré tout, ça progresse. Les élus mettent les collectivités publiques mettent à disposition des territoires, et on peut dire que petit à petit, ça prend corps. Mais c'est long à changer le fonctionnement dans l'esprit des gens. C'est long et l'esprit des élus, il y a des progrès à faire considérables et petit à petit, le cheminement se fait.
Hugo, pour le courrier de Gironde, Hugo Hamas.
Oui, donc vous disiez que apparemment la production actuelle en production de proximité ne serait pas assez importante pour nourrir une agglomération millionnaire, par exemple. Mais est-ce que ça devrait pas aussi venir des consommateurs qui devraient peut-être prendre une certaine habitude de ne pas manger des fraises en hiver, ou est-ce que le travail n'est pas aussi à faire de ce côté-là?
Le consommateur citoyen, alors, doit-il devenir plus citoyen, peut-être?
Oui, ça, Hugo, on peut répondre à cela, hein, c'est les consommateurs, on dit tout, il y a beaucoup de discussions, de gens qui s'expriment et disent, mais les consommateurs doivent réorienter leur manière de consommer, leur manière de vivre en quelque sorte. Parce que la manière de consommer, c'est aussi la manière de vivre.
Est-ce que le consommateur a tous les éléments justement pour s'orienter dans cette jungle
agroalimentaire? Par rapport à la masse de publicité, d'information, de marketing qui est une charge considérable dans les médias, toutes sortes de médias,
c'est vrai qu'à la fin, des fois, on consomme des produits, on ne sait plus d'où ça vient.
L'agriculture de proximité, elle est dérisoire en termes de moyens de marketing. Et c'est de l'ordre. Et les consommateurs...
Vous avez envie de dire, c'est David contre Goliath,
le coup. Oui, exactement. On est à la puissance,
dans le cours des chances,
la puissance médiatique et de formatage... des esprits de la consommation, des méthodes et des pratiques de consommation, on est de 1 à 1000 quoi, par rapport à la grande distribution qui est considérable, qui matraque sur la télévision, qui matraque sur les journaux, sur la presse, qui matraque partout. Et reformater des esprits, je ne dis pas les reformater, mais leur donner le choix. Hein, c'est très difficile, c'est très long. Et il faut beaucoup de conviction.
En même temps, Jean-Pierre, on voit que les nouvelles générations, je fais allusion à la question d'Hugo, sont plus sensibles à ces questions-là. Je vois les jeunes, même à l'école, sont sensibilisés déjà. Nous, on n'avait pas cette sensibilisation il y a quelques années. Je parle sous le regard de Joël. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup moins sensibilisés à ces questions-là dans nos études que sont les jeunes aujourd'hui, Joël. Et j'ai l'impression que c'est des bonnes idées qui reviennent, ces ceintures vertes autour des agglomérations, Joël Aubert. On l'a connu autrefois autour de Bordeaux.
Quand on citait des communes de l'agglo qui s'appellent Eysines, Bruges ou quelques autres, ou Blanquefort, il suffisait de poser son regard pour s'apercevoir des étendues de maraîchage. Alors il y en a toujours, d'ailleurs, heureusement, puisque c'est d'une certaine manière, c'est une matrice d'un développement possible de nouveau. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette réflexion et le témoignage des éleveurs girondins en confirme, c'est qu'il faut se rassembler, il faut s'unir. Il faut trouver à travers une manière de travailler ensemble, il faut trouver aussi des réponses qui soient avec un certain niveau de production, une masse critique qui permettent d'entrer dans une relation avec la distribution, qui est une relation de rapport de force
c'est ça,
absolument indispensable pour promouvoir son produit, le prix de son produit, être dans une... Voilà. Je prends un seul exemple. Je rentre de Bretagne où il y a 3 semaines, j'étais au Space à Rennes, où j'ai pris conscience d'un seul coup, en discutant avec les éleveurs, de l'effondrement d'un modèle. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi mal et que ça prend des allures aussi convulsives et rebelles. Nous avons objectivement dans notre région une chance extraordinaire, c'est qu'on a une agriculture quand même de qualité, je crois, et qu'on a, même s'il y a plein de critiques à s'appliquer, le bio a d'ailleurs fait une percée assez importante ces dernières années, on voit sur l'élevage
accompagné
aussi,
par des labels,
regardez la production de volailles. Quand vous pensez qu'un des grands producteurs bretons aujourd'hui, qui a survécu avec les restitutions européennes, va peut-être s'en sortir parce que les Saoudiens vont venir
mettre
de l'argent dans le capital pour qu'ils expédient leur poulet surgelé en Arabie Saoudite. On est ravis pour doux si la solution est trouvée. C'est pas le modèle qu'on a adopté ici, et tant mieux qu'on l'ait pas adopté.
Non, on est plutôt d'une
manière.
Gras ici dans le
sud. On est plutôt là aussi parce que les coopératives ont fait un travail structurant extrêmement important qui permet qu'on s'en sorte beaucoup mieux, ou en tout cas infiniment moins mal. Et donc, là j'ai dérivé, pardon, je voulais dire ça parce que faut pas avoir une vision catastrophiste non plus du... Il y a des problèmes, ils sont là, ils sont réels.
Il y a des solutions qui fonctionnent.
Il y a des solutions qui fonctionnent. Et donc je pense que les collectivités aussi peuvent soutenir le maraîchage. L'exemple de votre exemple, monsieur Quétané-Rigent, me paraît extrêmement important.
Oui, Bernard Richard.
Parce que le circuit des AMAP se développe quand même. Il y a une vraie demande et elle est très forte sur une agglomération comme Bordeaux, par exemple. Il faut imaginer, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer que des producteurs, des maraîchers, se mettent un petit peu ensemble pour essayer d'apporter un niveau plus régulier de production, parce que c'est un des problèmes, c'est aussi que la MAP, il faut l'alimenter, quoi.
Oui.
Sans quoi, elle peut se déliter très vite, hein, je parle sous votre contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, à ce problème, cette chance, cette opportunité que vous disiez d'un potentiel considérable à proximité de l'agglomération.
Allez, Bernard Richard.
Alors, si vous voulez, il y a deux choses à considérer par rapport à ce qui a été dit. Par rapport au choix du consommateur. Par exemple, là, nous, je vois, au niveau des AMAP, on a fourni des productions de légumes qui sont différentes et que les gens ne connaissaient plus. Il a fallu qu'ils retrouvent. Et du coup, il faut qu'on explique le légume, comment c'est, qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt, retrouver des astuces. Alors maintenant, il y a beaucoup d'aide par Internet, on peut trouver des recettes. Mais voilà. Il faut... Bon, il y en a qui jouent le jeu que ça intéresse, d'autres que ça n'intéresse pas, parce que c'est plus facile, c'est une question de vie pratique, hein, d'aller faire ses courses au supermarché, parce que vous allez acheter le produit que vous savez cuisiner. Voilà. Alors ça, c'est un des éléments. L'autre, pour répondre... La question par rapport aux collectivités locales. Alors, il y a une demande des collectivités locales qui demandent des productions bio, entre autres. Bon,
souvent dans la restauration collective et dans les cantines scolaires, on a entendu parler. Hein.
Et on est en manque, mais c'est normal. Depuis 10 ans, les AMAP ont démarré, les productions, du coup, des producteurs se sont installés, mais sur des toutes petites surfaces.
On l'a
donc,
vu. Hein.
C'est uniquement.
Avec vous, 1,5 hectare, par exemple.
Voilà, hein. C'est uniquement pour satisfaire justement un groupe. Alors, ceux qui s'installent, il y en a aussi qui s'installent pour satisfaire des marchés, pour aller sur des marchés, parce qu'ils préfèrent. Mais ceux qui ont un petit peu plus de surface peuvent aller vers les collectivités locales. Bon, faut s'organiser, mais il faut qu'il y en ait. Là, on redémarre.
D'où la question du collectif, justement, là, alors, du collectif alors, des producteurs qui pourraient...
Voilà. Il y a quelque chose. Alors, des choses se sont faites et essayent de se faire en Dordogne. Chez nous, pour l'instant, on manque de production. Mais quand vous savez que des gens qui voudraient s'installer actuellement en Gironde ne trouvent pas de surface, parce que c'est là, il y a une tradition aussi qui fait que quand vous avez des terres, des vignes, n'importe quoi, vous êtes agriculteur, vous espérez les vendre et les gens... qui voudraient s'installer sur des surfaces comme ça, il y a des demandeurs, n'ont pas les moyens d'acheter. C'est pas possible. Et puis, pour faire des légumes, il faut l'imposition, il faut trouver de l'eau. Donc, il faut qu'il y ait une eau, il faut qu'il y ait une certaine surface, il faut que ce soit pas, disons, trop loin des villes. Parce que si on doit faire trop de kilomètres pour apporter l'alimentation, c'est pas intéressant.
Et aujourd'hui, M. Richard, vous, dans votre AMAP, vous êtes plusieurs producteurs, plusieurs maraîchers à fournir cette AMAP, finalement. Vous êtes déjà en collectif ou vous êtes le seul producteur ?
Non, je suis le seul producteur en légumes.
Des deux
mais
AMAP.
Y a, voilà.
Après, il y a des éleveurs.
Mais il y a d'autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Mais il y a d'autres, il y a des d'accord. éleveurs, il y a des producteurs...
Et sinon, l'idée, comme le rappelait Joël Aubert, de peut-être de se regrouper en collectif, donc plusieurs maraîchers qui formeraient un groupe de maraîchage, comme on peut le trouver chez les éleveurs, par exemple. Est-ce que ça vous semble opportun?
Alors, ça, oui, mais par rapport aux collectivités. Ça, c'est,
oui, à condition qu'il y ait un marché derrière, quoi, en fait.
Mais le marché, il y est.
Bon.
Il y est, le marché. Il y a la demande.
D'accord.
Mais il faut pouvoir trouver des choses. Installer.
Et ça vous paraît possible dans l'avenir ou pas?
Ah, mais c'est le gros problème à résoudre. Hein. Ça, d'accord. C'est notre problème à nous. Parce qu'il y a des tas de surfaces qui sont en train de disparaître en Gironde parce qu'on arrache de la vigne. Mais c'est des mythes, quoi.
Cela dit, je voudrais juste ajouter un mot.
Allez, parce que je vois une question du goût de Jacques.
Je vois la politique que mènent les SAFER, par exemple. Elle a pu être critiquée, mais il y a une évolution actuellement. Et je crois qu'il faut s'inscrire dans cette logique d'évolution où il y a un problème de transmission, de succession, d'exploitation considérable dans l'élevage, dans l'agriculture paysanne. Et dans la viticulture, on n'en a pas parlé.
Mais tu peux en dire un mot.
Il y a des surfaces qui vont se libérer. On peut trouver des systèmes, et il y a déjà des systèmes qui existent, qui permettent de dégager avec des aides sur le moyen terme, de dégager des superficies pour installer des jeunes. Et je crois qu'il faut pas oublier que les SAFER peuvent jouer un rôle. Il faut aussi, dans un rapport de force avec elles, aller les voir, discuter, proposer. Et je suis sûr qu'il y a des solutions qui peuvent se trouver.
Bon, la CUB a une véritable politique, justement, en matière de maîtrise foncière et en partenariat avec la SAFER. Mais une question de Jacques et puis d'Hugo. Oui, il nous reste 10 minutes.
J'ai suivi un certain nombre d'AMAP hein, qui se multiplient là sur la rive droite, et c'est toujours extrêmement sympathique hein, comme le côté militant hein, les adhésions hein, qui vont jusqu'à aider aller sur le terrain hein, et aider à la récolte par exemple hein, sauf que il y a quand même un petit bémol de temps en temps, c'est que une mamapienne qui me dit oui mais c'est quand même pénible hein, il faut se baisser hein,
la serrée basse oui c'est ça
voilà. Et alors l'autre
les amapiennes
et alors l'autre bémol aussi c'est que j'ai senti dans quelques amap tout de même des interrogations et, bon par manque de militance bien entendu hein, mais des personnes qui se tournent vers des formules intermédiaires de regroupement où on fait une commande et puis on va chercher la commande. Donc, il s'inquiétait un petit peu de ça. Hein. Donc, il faut vraiment insister sur ce côté d'adhésion hein, et qui est indispensable pour que ça fonctionne.
Voilà. Alors, c'est très important parce que la MAP, c'est une association qui soutient un agriculteur. Bon, par exemple, c'est un maraîcher.
Je crois que c'est contractualisé même. Il y a un
éleveur,
un consommateur.
C'est un soutien qui va loin, quoi. C'est pas un simple dire bon, mais j'achète mes produits au maraîcher, là, il fait un stand, j'achète. Non.
C'est souvent inscrit noir sur blanc.
C'est
hein.
un soutien vraiment pour qu'ils puissent vivre. Voilà. C'est un engagement. Et par exemple, ben, vous parliez de récolte. Nous, pour la récolte des pommes de terre, eh ben, on a une dizaine de personnes qui sont venues, des différents groupes. Là, hier, on vient de déplacer des serres, de réinstaller, de les démonter. On a fait dans la journée, on a démonté, réinstallé les serres. Bon, elles ne sont pas complètement finies parce que c'est long. Mais dans une journée, on a fait un travail déjà. Sensationnel. Quoi.
Qui n'aurait pas été possible sans l'aide des amapiens et des arapiennes, si je comprends bien.
J'en reviens pas, quoi. C'est magnifique.
Donc, il y a aussi quand même ça, cette solidarité qu'il faut voir auprès de ces filières. Oui, peut-être juste une question d'Hugo pour le courrier de Gironde et on vous passe la parole.
Tout à l'heure, Monsieur Leroy, vous disiez que la grande distribution avait des moyens pour s'adresser, des moyens médiatiques pour s'adresser aux consommateurs. Il y a eu récemment, l'année dernière, je crois, en Gironde, l'ouverture d'un drive fermier qui reprend l'un des systèmes que la grande distribution met en place à une vitesse incroyable en ce moment. Est-ce que c'est l'une des solutions ? J'aurais aimé avoir vos avis à tous les trois.
La distribution directement, c'est le dernier maillon de la chaîne, on le sait, c'est ce qui manquait jusqu'à présent.
Mais sur
un mot auprès de monsieur
le drive Lompex. Fermier tel qu'il se est un peu décalé par rapport à l'esprit de la MAP, hein, il y a le contact avec le producteur n'y est pas véritablement. Ça relève aussi d'une forme de marketing, quoi, même si...
Sauf dans le cas où les producteurs vendent eux-mêmes avec des stands
Cela dit, voilà. Il faut voir comment ça se développe, comment ça fonctionne, ça peut être un projet de commercialisation aussi, hein. Il y a plein de... Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pléthore de projets qui se mettent en place. On n'est pas non
donc
plus...
Donc il n'y a pas une solution unique, ça sera plutôt une combinaison, une conjugaison.
On n'est pas non plus obligé de mettre tous les producteurs en groupement collectif. Ce n'est pas une obligation. Il y a des tas de producteurs qui produisent, commercialisent leur production et avec une vente directe, soit en viande, hein, les moutonniers, des producteurs de fromage, même de la viande bovine, j'entends. On ne peut pas opposer les uns aux autres. Il faut qu'il y ait une diversité et laisser émerger cette diversité sur le territoire. Et il ne faut surtout pas qu'un système collectif.
Prennent le monopole finalement sur toutes les autres bonnes initiatives.
Se crée en monopole, quoi. Mmh. C'est un des dangers.
D'accord. Une réaction aussi de Philippe Nompex pour le groupement des éleveurs girondins sur finalement ce dernier maillon de oui. la filière et, de production, c'est la distribution. Vous en parliez tout à l'heure, mais un mot là-dessus.
Oui, voilà. Enfin, je voulais juste apporter un complément et j'aurais deux choses à dire. Bon, donc je vais aller très vite sur le premier, mais le drive fermier qui a été mis en place, on le connaît très bien puisqu'on y participe. Donc nous, on est en démarche collective au départ, mais là, c'est une autre démarche collective. Mais je vous rejoins dans le sens où ça ne doit constituer qu'une partie des solutions pour valoriser sa production, quoi. On peut pas tout baser là-dessus. Le drive fermier qui a été mis en place avec les agriculteurs et la chambre d'agriculture de la Gironde, ça fait un an qu'il tourne maintenant. Donc trois points de livraison aujourd'hui, le vendredi, tous les vendredis.
Et à quel endroit là ?
Alors Aisine, Lormont et Gradignan.
Donc tout près de chez nous ici.
Oui, 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 oui. Donc c'est quand même
à Lormont, je...
assez bien réparti sur le territoire. Donc aujourd'hui, un peu plus d'une vingtaine de producteurs et coopératives, puisque nous, on est dans une démarche où on participe parce que c'est plus compliqué pour un éleveur individuel, même s'il y en a, d'être présent toutes les semaines pour fournir ce produit régulièrement. Donc nous, on y participe. Et il y a une autre coopérative dans le Canard, mais il y a bon, tous les produits de la Gironde, hein, le vin bien sûr, mais les légumes, les fruits, les yaourts, les escargots, puis il y a des producteurs d'escargots, etc. Et voilà.
Ça c'est bien, oui,
voilà.
Aussi des
escargots. Donc c'est une dynamique, et bon, là, on voit que ça monte en puissance, parce que pour donner les chiffres, puisqu'on est au cœur de ce fonctionnement, là, depuis les derniers mois, enfin depuis la rentrée, je dirais, on est globalement à pas loin de 300 commandes. Par D'accord. semaine, quoi, globalement. Nous, on en représente une centaine au niveau de la viande, mais c'est quelque chose qui monte, puisqu'on a commencé, on était à 60, 80, D'accord. 100.
Donc, c'est crescendo.
Il y a une réelle demande et ça correspond vraiment aux attentes des consommateurs.
Alors, on le voit des... Ouais, allez-y, vous voulez dire, rajouter un dernier...
Ben, après, c'est différent de ça, si vous voulez.
Bon, allez-y, allez-y.
Je profite de l'antenne, puisqu'on allez-y. Parlait tout à l'heure du soutien des collectivités, notamment de la CUB et de la
tout
région. Et moi, je veux profiter de cette émission parce qu'il y a quelque chose, un projet qu'on est en train de boucler aujourd'hui, parce que vous savez que fin 2011, l'abattoir de Bordeaux a fermé.
Tout à fait.
Depuis cette époque-là, nous, on abat nos animaux à Bergerac, en Dordogne, 110 km de Bordeaux. On a lancé un projet à l'époque de construction d'un abattoir de proximité sur la communauté urbaine. Donc on a trouvé le terrain qui est sur la zone de Ourcade à Bègles. On a obtenu fin 2012 le permis de construire sur cette zone.
Alors où ça en est aujourd'hui ?
Et au moment d'engager les travaux, on n'a jamais pu boucler le plan de financement. Aujourd'hui, avec ce que fait la région, la CUB, qui sont très attentifs à ces démarches de proximité, les deux collectivités, on compte aujourd'hui sur le président Feltès et le président Rousset pour boucler. On est en train de dans la phase de bouclage de ce projet. Donc on a vraiment besoin d'eux. On a avancé. C'est un abattoir privé.
Alors il manque quoi alors de l'investissement public.
C'est un abattoir privé, mais qui a besoin de fonds publics. Et après, d'accord. on n'en demandera pas d'autres. C'est un abattoir de 650 tonnes qui permet de sécuriser l'abattage de notre production sur le département de la Gironde.
Donc sécuriser toute la filière.
De sécuriser toute une filière qu'on a créée. Comme on le dit, de la fourche à la fourchette. Donc,
ah oui, c'est mieux ça, de la fourche à la fourchette.
On a besoin de cet outil et j'espère que les deux collectivités vont nous aider à boucler dans les semaines qui viennent, parce qu'après il n'y aura plus les fonds européens qui nous ont été prévus, les fonds du AFEADER. Donc j'espère qu'ils vont nous aider à boucler dans les semaines qui viennent.
Donc j'espère que le message sera entendu à la région Aquitaine et à la communauté urbaine de Bordeaux.
Voilà.
Bon, on conclut, Jean-Pierre. En mot de conclusion, il nous reste une minute.
Il est en concurrence avec l'abattoir de Bazas qui pose. Qui se bat pour sa survie aussi à lui, donc quels sont les projets qui sont les plus pertinents.
Donc il y aura un arbitrage tout, vraisemblablement, un choix sera fait.
Voilà.
Donc la Confédération paysanne, elle est plutôt de pour le maintien de l'existence, pour le soutien de la création.
L'abattoir de Bazas a sa pertinence parce qu'il est au cœur d'une production locale de
Bazadais, la Bazadaise. Hein,
et c'est important. Ensuite, c'est une zone d'élevage.
En même temps, on entend le projet aussi.
Importante. Et donc, quelque part, peut-être que ce serait bien de le décentraliser.
Si je comprends bien, avant ces élections aussi, je ne veux pas rentrer dans la
polémique avec Bazas. Les deux dossiers ont été actés il y a 3 ans de ça. Aujourd'hui, on est en train de nous planter parce qu'il y a des pressions. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là qui vient du Bazadé. Région de production, aujourd'hui, la principale zone de production de la Gironde en élevage, c'est le canton de l'Espard. Donc, alors, on va pas discuter là-dessus. On a un projet de démarche de proximité où il nous manque un maillon. Aujourd'hui, on abat Bergerac. Ce n'est pas du tonnage qu'on enlève à Bergerac, qu'on soit très clair. C'est nous donner les moyens de poursuivre notre développement et de développer notre projet d'entreprise. Voilà. Bon, basé sur la proximité.
Merci beaucoup Philippe Nompex, pour le directeur du groupement des éleveurs girondins. Merci Jean-Pierre Leroy pour la Confédération paysanne de la Gironde. Merci Bernard Richard pour maraîcher. On l'a dit que vous fournissez deux AMAP sur la rive droite.